Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct, bien sûr, sur RTL aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute notre petite équipe, Perrine Suquet, comme d'habitude, Margot Agnès, bien sûr, mais qui n'a pas cherché, vous le comprendrez aisément dans un instant, d'archives sonores de la rédaction d'RTL pour l'histoire, dont on va parler dans un petit instant. C'est Philippe Duval qui est à la technique de l'heure du crime aujourd'hui. Et effectivement, on va parler d'un personnage qui était d'ailleurs déjà célèbre à son époque, Alphonse Bertillon qui aurait eu 100 ans le 13 février prochain, et comme je disais tout à l'heure, une des figures les plus connues peut-être dans le monde, qui représente le pionnier de la police scientifique. On le connaît d'ailleurs à son époque, je crois, déjà Conan Doyle dans Le Chien des Baskerville, je dis ça pour les spécialistes de Sherlock Holmes. Et ben, c'est un client de Sherlock Holmes qui dit que Alphonse Bertillon est un des plus grands savants mondiaux, connaisseurs évidemment de l'identité judiciaire. Alors nous voilà au cœur de notre sujet. Je vais vous présenter tout de suite mes invités. Perrine Rogier-Tubert, qui est à côté de moi, bonjour.
Bonjour.
Marion Delbar,
bonjour.
Et puis Gilles Rex, bonjour.
Bonjour.
Alors les attributions des uns et des autres, Perrine Rogier-Tubert, vous êtes capitaine de police à l'identité judiciaire de Paris. Marion Delbar, vous êtes agent spécialisé en police technique et scientifique à l'identité judiciaire de Paris. Et Gilles Rex, vous êtes brigadier-major, donc dans le même service. Alors peut-être, et je ne m'adresse pas spécialement à l'homme, mais pendant de très très nombreuses années, l'identité judiciaire était l'apanage des hommes, je crois en tout cas. Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux mots qui sont célébrissimes à cause de la littérature policière, des films policiers? L'IJ.
Alors l'IJ, si vous voulez, l'identité judiciaire ne commence pas sous l'affaire Schaeffer en 1902, mais commence finalement bien avant, à partir de justement où ce fameux Alphonse Bertillon va arriver à la préfecture de police comme simple commis aux écritures, mm-hmm. et qui va s'apercevoir que pour identifier des récidivistes, c'est très très compliqué, mal classé et presque incompréhensible, et il va avoir l'idée de mettre en pratique des thèses qu'il va un peu sur lesquels il va se baser. Ce sont des études qui ont été faites par un médecin, et il va se baser là-dessus en disant, eh bien, si on mesurait certains ossements de l'individu qui ne grandit plus, qui ne grossissent plus à partir d'un certain âge, peut-être arriverons-nous
à identifier à coup sûr quelqu'un, oui. Alors, oui, Marion, non
Perrine.
Perrine, pardonnez-moi, Marion, je vous appelle Marion. Perrine Rogier-Tubert, vous pouvez peut-être nous préciser, parce que, en fait, il invente quelque chose de considérable, Bertillon. Avec un pied à coulisses, il mesure ses contemporains pour trouver, je crois, 14 mesures.
Oui, alors tout à fait. Alors, en fait, il s'inspire, comme disait Gilles, des travaux du professeur Quetelet qui consistait à dire que 14 mesures osseuses chez un individu lui étaient propres, donc individuelles, et se retrouvaient chez personne d'autre. Donc finalement, Bertillon se dit, je vais prendre cette anthropométrie osseuse et je vais en faire de l'anthropométrie judiciaire, et donc va prendre 9 mesures osseuses chez les individus interpellés et va consigner ces mesures afin de lutter contre le récidivisme. Et la préfecture... il croit moyennement, pour être honnête. On est en 1882, et la préfecture laisse alors 3 mois à Bertillon pour faire ses preuves. Et au bout de 2 mois et demi, il parvient à la première identification grâce à l'anthropométrie judiciaire.
Voilà,
donc c'est donc le pari est gagné.
Fameuses mesures, voilà. Marion Delbar, j'allais citer tout à l'heure, il disait, Bertillon, il avait fait ses calculs, il y a une chance sur
283 millions, oui, c'est ça.
283 millions que deux individus aient en commun les 14 mesures en question.
Voilà. Oui.
Ça, on s'en sert encore aujourd'hui de ça?
Alors aujourd'hui, l'anthropométrie, on ne s'en sert plus, mais on se sert d'autres systèmes qui fonctionnent aussi avec des probabilités qui font qu'il y a quasiment pas de chance de tomber deux fois sur le même individu, ce qui est le cas pour les empreintes digitales, par exemple.
Oui,
Toutefois, il avait quand même mis au point le portrait parlé, donc qui consiste aussi à la photo anthropométrique face profil et les signes particuliers des individus. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on signalise un individu, s'il y a des signes particuliers, ce sera quand même notifié sur sa fiche individuelle. D'accord. Voilà, des signes indélébiles. Hein.
Le portrait parlé, c'est-à-dire on essayait de d'établir le portrait imaginaire de quelqu'un en citant ses signes particuliers, sa taille évidemment, son poids.
Oui, voilà, c'est une sorte de fiche de signalement. Si par exemple l'individu était recherché, et puis on le verra dans l'affaire Schaeffer, quand le signalement de Schaeffer était paru, avec les signes physiques, les caractéristiques, mais à l'époque c'est vrai que c'était des signes assez... C'était porte une moustache par exemple. Bon, aujourd'hui on verrait plus ce genre de choses. Ouais. Aujourd'hui ça va être les tatouages, les cicatrices indélébiles, ce genre de choses. À l'époque, l'accent aussi, on parlait de l'accent de l'individu. Mmh. Aujourd'hui, comme ce sont des choses faciles à plagier, finalement, ça n'apparaît plus sur les fiches.
D'accord. Alors, peut-être encore une précision sur le contexte dans lequel on va retrouver dans un instant l'affaire Schaeffer. Et là, cette fois, je m'adresse à Gilles Rex. C'est cette fameuse histoire des empreintes digitales. Alors, techniquement, ça ne s'appelle pas comme ça. Hein. Comme on disait, c'était plus compliqué. Non, la dactyloscopie.
La dactylotechnie, nous appartenons à la section de la dactylotechnie. Ici,
on parlait des dermatoglyphes.
Voilà, des dermatoglyphes. Alors, c'était.
Ça veut dire quoi, empreinte ?
Oui, voilà, c'est ça. C'est tout simplement le dessin qu'on a au bout des doigts, qu'on peut classer dans quatre grandes familles, dirons-nous, mais on ne va peut-être pas rentrer dans les détails ici. Mais en fait, ces empreintes digitales commencent avec le docteur Foulds, qui est un médecin écossais, qui lui a déjà vu des choses comme ça gravées dans les poteries anciennes, qu'il aime bien découvrir dans les poteries chinoises. Ouais. Il se dit, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça, mais comment faire ? Et il écrit à Scotland Yard, à l'époque, en proposant cette thèse, et on lui dit, oui, non mais d'accord, mais on ne comprend pas ce que et vous voulez nous dire. Ça ne va pas. Ouais. Il a l'idée, donc, d'appeler Darwin, à l'époque, enfin d'appeler, pas au téléphone, bien sûr.
Bien sûr, mais de contacter le grand savant, Darwin, spécialiste de l'évolution.
Qui, lui, est malade et vieux, lui dit, écoutez, moi, je ne pourrais pas vous aider, mais je vais vous orienter vers... un cousin à moi qui s'appelle Galton et qui va essayer de résoudre ça. Et ça se passe en 1882 aussi, quoi. 1882. Pendant que Bertillon, parallèlement, lui, commence à développer son système.
D'accord.
Mais deux choses totalement différentes. Galton va se mettre à travailler là-dessus pendant 10 ans, jusqu'en 1892, où là, il va sortir le premier livre qui va prouver que les empreintes digitales sont quelque chose d'unique et de parfaitement différenciable d'un individu à l'autre. Et il appelle cet ouvrage Fingerprints, et c'est là, en 1892, que ça sort.
Donc, c'est une invention anglaise. On est bien d'accord.
Oui, c'est
parce qu'après, avec l'ombre de Corriche, donc on a dit Bertillon, l'inventeur.
Non.
Alors, il n'était pas d'accord lui-même.
Alors,
il trouvait
Bertillon,
que c'était nul.
Bertillon n'était pas admirateur de ses empreintes digitales. Lui, il était. Il défendait vraiment son principe de l'anthropométrie. Et en 1893, en fait, Galton vient rendre visite à Bertillon, à Ligy. Et ça ne se passe pas très bien. Galton vient proposer son projet, le défendre. Mais Bertillon, lui, veut absolument prouver que l'anthropométrie est ce qui fonctionne le mieux. Et d'ailleurs, il propose à Galton d'effectuer un test. Et on a dans nos archives la photo de Galton prise par Bertillon.
Oui,
et on peut vous dire, face profil, et Galton n'est pas du tout content de se prêter à ce jeu-là. Mais toujours est-il qu'il est venu donc en France en 1893 présenter le projet.
Oui, c'est-à-dire qu'il avait fait la photo de son concurrent comme on fait la photo des malfrats.
À cette époque-là, Bertillon a une quarantaine d'années. Et puis, et Galton, lui, a 71 ans. Donc...
Bon, et Marion Delbar, évidemment, ça, nous savons tous qu'en 2014, on continue à prélever des empreintes digitales sur des scènes de crime.
Oui.
C'est même une des premières choses qu'on recherche, je crois, non ?
Alors, on recherche les traces digitales, en effet, sur les lieux. Oui. Et à chaque fois qu'il y a eu une mise en cause qui est en garde à vue, il est signalisé systématiquement, c'est-à-dire qu'on fait et ses photos, et la prise d'empreintes, et la prise d'ADN également.
Voilà, donc il fallait raconter tout ça et rappeler tout ça, c'est-à-dire savoir qu'aux fameuses fiches de M. Bertillon, depuis quelque temps, un peu avant 1902, puisque notre histoire se déroule en 1902, il y avait évidemment toutes les indications de Bertillon, toutes les mesures de Bertillon, mais il y avait aussi les empreintes digitales des personnages quand on les avait donc évidemment attrapées une première fois. Et c'est dans cette circonstance générale que va éclater l'affaire Schaeffer. On va vous la raconter dans un tout petit instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Nous sommes le vendredi 17 octobre 1902 à Paris. Ce matin-là, un bourgeois élégant fait irruption dans un des commissariats du 8e arrondissement. Il a l'air bouleversé, un peu perdu. Il se précipite sur le policier de permanence à l'accueil. Il se présente, docteur Auguste Allot, chirurgien-dentiste, installé au 157 rue du Faubourg Saint-Honoré. Le médecin explique qu'il vient de découvrir, en arrivant à son cabinet, le cadavre de son domestique, un certain Joseph Rebel. Et il ajoute, on l'a assassiné. Le policier qui recueille sa déposition lui pose évidemment les questions de routine, mais est-ce qu'il est bien certain que l'homme est mort? Et puis pourquoi parle-t-il d'un assassinat? Le docteur Allot le prend un peu de haut, fait remarquer que ses connaissances médicales lui permettent de faire la différence entre un vivant et un mort, et il ajoute que le mobile du crime est d'ailleurs certainement, selon lui, un cambriolage, car il a trouvé ses meubles et ses armoires fracturé. On a, dit-il, visiblement fouillé son cabinet, vraisemblablement à la recherche d'objets précieux et de valeurs, et c'est tout ce qu'il peut dire, bien sûr, sur le moment. Il ajoute simplement que la veille au soir, Joseph Rebel avait décidé de rester dormir au cabinet, comme cela lui arrivait parfois, pour éviter de se rendre au domicile de son patron, situé au boulevard des Batignolles. La raison, toute simple, il faisait mauvais temps la veille, il pleuvait des trombes, et le domestique s'évitait ainsi, pour le lendemain matin, de traverser tout Paris dans les encombrements pour se rendre à son travail. Deux heures plus tard, quatre messieurs sobrement vêtus se présentent au cabinet du dentiste pour constater les faits. Il y a là le juge d'instruction, Joliot, qui va diriger l'enquête jusqu'à l'éventuel procès de l'assassin, si on le trouve. Le commissaire Cochefer, chef de la sûreté, dont les hommes vont mener l'enquête. Le docteur Soquet, médecin légiste, qui doit déterminer, lui, les causes et les circonstances de la mort. Et le dernier des visiteurs est un homme dont la réputation n'est plus à faire. Il s'appelle Alphonse Bertillon. Il est chef du service de l'identité judiciaire. Alphonse Bertillon a révolutionné le travail des enquêteurs. Son invention, dont on parlait tout à l'heure, l'anthropométrie judiciaire, qu'on appellera très vite d'ailleurs le bertillonnage, reposait sur le constat qu'à l'âge adulte, certaines caractéristiques du squelette humain demeurent inamovibles chez tous les individus. Et à chaque arrestation d'un suspect, Bertillon arrivait avec ses instruments de mesure. Il prenait note de toutes les particularités du suspect, qu'il photographiait d'ailleurs de face et de profil. La taille, bien sûr, mais aussi l'envergure des bras, la longueur du pied gauche, la forme et la longueur des oreilles, l'écart entre les yeux et aussi les mesures du crâne. En cas d'arrestation d'un suspect, un rapide coup d'œil à sa fiche suffisait pour le reconnaître, même sous une fausse identité. Et chaque mois, une bonne trentaine de criminels récidivistes étaient ainsi identifiés. Malgré l'efficacité de sa méthode et sous la pression de ses supérieurs, Bertillon avait dû, on le sait, accepter un peu à contre-cœur d'ajouter sur ses fiches signalétiques l'empreinte à l'encre des quatre doigts de la main droite et, depuis 1900, celle de l'index gauche de ses clients. Ainsi, en l'absence de description physique, il devenait théoriquement possible de confondre un suspect en comparant simplement ses empreintes avec les traces relevées sur la scène de crime. S'il était déjà fiché, bien sûr, ces empreintes pouvaient constituer un élément de reconnaissance de plus. Toutefois, on l'évoquait tout à l'heure, Bertillon demeurait persuadé de la supériorité de sa méthode, d'autant plus que aucun malfrat n'avait jamais été arrêté jusque-là grâce à ses empreintes digitales. Mais ce 17 octobre 1902, Bertillon allait devoir réviser définitivement ses convictions. Le cadavre de Joseph Rebel repose dans l'antichambre du cabinet du docteur Allot. Assis le dos contre une chaise, les yeux ouverts, une serviette nouée autour du cou avec laquelle il a été étranglé, des traces de griffures au niveau du nez et des joues indiquent que la victime a lutté avec son agresseur. Dans l'évier de la cuisine, on a retrouvé un torchon imbibé de salive qui a dû servir à bâillonner et à étouffer le malheureux. Avec son énorme appareil photo, Bertillon immortalise la scène du crime. Il demande aux personnes présentes de ne toucher à rien avant qu'il ait terminé ses fameux clichés. C'est alors que le juge Joliot, qui examine les meubles fracturés dans l'appartement, appelle Bertillon pour lui montrer un morceau de vitrine brisée. L'expert scientifique devient tout pâle. Il découvre sur le verre, bien distinct, bien visible, des empreintes digitales nettes, les plus nettes qu'il ait jamais vues. Bertillon va donc devoir s'atteler à comparer ses empreintes avec toutes celles qui se trouvent sur ses fiches soigneusement archivées depuis 8 longues années. Un véritable travail de Romain qui va finalement porter ses fruits. Il va identifier formellement un certain Henri Léon Schaeffer, cocher livreur de 27 ans, bertillonné le 9 mars précédent pour une affaire de vol et d'abus de confiance. La description physique portée sur la fiche de Schaeffer correspond d'ailleurs point par point au signalement recueilli auprès des témoins qui avaient vu un inconnu sortir de l'immeuble la veille au soir.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Schaeffer sera évidemment arrêté et condamné. Mais une grande question demeure aujourd'hui. On va faire la lumière sur ce mystère 100 et quelques années après cette affaire de 1902. J'en profite pour dire au passage que notre ami Bertillon, que j'ai rajeuni en disant qu'il aurait eu 100 ans à la fin du mois de février prochain, aurait eu en fait 161 ans. C'est vous dire que c'est pas d'hier tout ce dont on vous parle. Mais mes trois invités qui sont tous membres de l'identité judiciaire se sont penchés sur cette affaire particulière et vont pouvoir nous dire qui a vraiment résolu le mystère du crime du docteur Schaeffer.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
La science contre le crime, personnifié évidemment par cet Alphonse Bertillon, dont on parle beaucoup avec mes trois invités qui sont tous membres de l'identité judiciaire. Autrement dit, on parle vraiment du créateur de leur service et d'un des grands pionniers de la police scientifique en France. Mes invités donc, Perrine Rogier-Tubert, Marion Delbar et Gilles Rex, tous trois donc de l'identité judiciaire de Paris. Et avec vous maintenant, on va revenir sur l'enquête avant de voir qui a vraiment percé le mystère, parce qu'il fallait évidemment identifier l'assassin, il fallait comprendre le mobile du crime. Enfin, bien que ça se passe en 1902, je pense que les questions qu'on se pose, c'est les questions qu'on se poserait aujourd'hui, hein, en 2014. Alors, évidemment, l'enquête qu'on appelle l'enquête de proximité, Gilles Rex, c'est d'essayer déjà de voir est-ce qu'il n'y a pas des témoins éventuels de tout ça.
Voilà, ça se passe à cette époque comme ça se passerait aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'enquête de voisinage, et le service enquêteur est là, bien sûr, avec à sa tête le directeur de la sûreté qui s'appelle Armand Cochefer. Oui. Et il commence à interroger évidemment tout le voisinage, les gens qui habitent au-dessus, les étages au-dessus et en dessous, hein, puisque le cabinet
Il y a du monde, hein. Il y a une modiste, il y a une...
Oui, voilà, c'est une couturière.
Une couturière.
Et qui raconte qu'elle a...
Un photographe et
un architecte. Mmh. Et donc, la couturière, surtout, qui habite juste au-dessus, raconte qu'elle a entendu des bruits, effectivement, la veille au soir, entre 6h30 et 7h, des allées et venues, des cris étouffés, et elle pensait, en fait, qu'il s'agissait de jeunes, de gamins qui couraient dans le cabinet dentaire et qui n'étaient pas tout à fait décidés à se laisser arracher des dents.
Ah, voilà, d'accord. Donc, elle devait entendre parfois des plaintes quand même venir du cabinet.
Voilà, elle avait cette habitude. Oui. Seulement, elle avait oublié qu'on était jeudi et que le jeudi, le docteur Allot a une permanence à l'hôpital Beaujon, qu'il n'est pas là du tout, que la clinique est fermée, que cette clinique dentaire est fermée, et que le soir en plus, il ne revient pas puisqu'il dîne en ville.
D'accord, oui.
Donc, voilà, quoi. Et là, donc, on commence à remettre toutes ces informations en place et on s'aperçoit que Rebel, qui lui, le domestique, était descendu boire un petit coup chez Kéla, le marchand de vin au coin de la rue, et vu le temps désastreux, n'avait pas voulu rentrer chez lui, était remonté, puisqu'il avait une petite chambre, une chambre de bonne, tout à fait sous les combles, et il savait pouvoir rester ici.
Et est-ce que quelqu'un avait vu quelqu'un sortir, alors si on garde l'idée de l'enquête
Le concierge a été aussi interrogé, et là, on raconte aux enquêteurs sortir, peut-être pas, ou peut-être bien, parce que Rebel, on va vous avouer, il avait l'habitude d'introduire chez lui d'autres jeunes gens qui ne partaient qu'au matin venu.
D'accord.
Donc là, on commence à s'orienter, l'enquête va commencer à s'orienter vers l'entourage de ce rébelle.
Oui. Perrine Rogier-Tubert, oui.
Ouais, c'est vrai que Rebelle, en fait, disposait d'une chambre de bonne au dernier étage, enfin au quatrième étage de l'immeuble. Donc il y avait beaucoup d'allées-venues et Joseph Rebelle avait des fréquentations. Il voyait beaucoup de monde. Alors il était homosexuel et à l'époque, donc c'était un délit. Et donc discrètement, il ramenait ses amants vraisemblablement dans cet immeuble. Mais c'est vrai que c'est un petit peu comme quand aujourd'hui on fait une enquête de personnalité, enfin une enquête de l'entourage de la victime. Là, pour le coup, Joseph Rebelle connaissait beaucoup de monde. Mmh. Donc l'enquête s'avérait difficile.
Oui, alors, donc pas de... On ne donne pas de description particulière d'un individu qui pourrait être l'assassin. On s'interroge sur le mobile. On pense au fait que le docteur Allou est quand même personnage oui, assez riche.
Le docteur Allou est très très riche. Il est propriétaire de plusieurs immeubles, hein, d'une cité ouvrière où il recueille bien sûr ses loyers régulièrement. Et chez lui aussi, c'est un grand appartement, enfin, même dans ce cabinet dentaire où tout attire la convoitise et l'attention, hein, puisque donc les invités occasionnels de rebelles peuvent avoir eu des idées en venant et en fréquentant les lieux.
D'accord. Alors évidemment, il y a l'exploitation quand même de la scène de crime, quand même, parce que là, on a parlé de cette vitrine avec ses traces de doigts, donc évidemment, Bertillon est rentré à l'identité judiciaire avec ses éléments pour en sortir des empreintes. Bon. Il réussit.
Déjà, à l'époque, ils se déplacent sur les lieux, ils arriveront en début d'après-midi, alors que le crime est déjà constaté depuis 9h le matin. Mmh. Il faut tout remettre en perspective, c'est-à-dire qu'à l'époque, on se déplace en calèche et à cheval pour se rendre sur les lieux, et le temps de télégraphier et d'inviter tout le monde à se déplacer, ça prend un certain temps.
Ouais.
Bertillon va effectivement procéder à des photographies des lieux, au magnésium, avec des appareillages assez compliqués. Hein. Il en fait 5, nous en connaissons 5 à notre service. Hein.
Ouais.
Et effectivement, le juge d'instruction et lui-même vont découvrir ces traces papillaires sur un morceau de vitre cassé du grand médaillé. C'était un meuble dans lequel étaient collectionnées des pièces rares et des médailles. Et le vol, effectivement, a l'air d'être
le mobile du crime. Bon, ouais. Mais à l'air seulement. Bon, en ce moment, je regarde aussi Marion Delbar, qui est, je le rappelle, agent spécialisé en police technique et scientifique, dans le cadre également de ce service de l'identité judiciaire. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire. On a gelé la scène de crime, on a fait le travail à peu près.
Oui,
Il reste l'autopsie, peut-être.
Non, c'est sûr que l'arrivée sur les lieux serait plus rapide, et puis qu'on ferait un périmètre de sécurité qui n'était peut-être pas forcément automatique à l'époque.
Ouais.
Mais...
on va rechercher, je crois, plusieurs jours plus tard, après la découverte du corps, un torchon qu'on avait vu.
Voilà, alors ça par contre.
Qui avait servi à baïonner quand même la victime, hein, je crois.
Oui, alors ça par contre, ça n'arriverait plus aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on passe le nombre d'heures qu'il faut. Si c'est 12 heures sur une scène de crime, c'est 12 heures. Mais on revient rarement sur les lieux pour exploiter la scène. La scène est exploitée d'un seul bloc tout de suite après les faits.
Et Marion Rogier-Tubert,
En fait, ce qui est intéressant, c'est le torchon. On vient le récupérer 3 jours après. Pourquoi ? Parce que le dossier est vide. Il n'y a pas de preuve matérielle. Il n'y a pas de pièce à conviction. Donc, à un moment, le juge dit on va retourner sur les lieux et essayer de ramener quelque chose
L'enquête n'avance pas.
Qui montre qu'il y a eu un meurtre. Finalement, c'est la seule pièce à conviction qui est ramenée 3 jours après.
D'accord. Mais qu'on ne fait pas parler non plus spécialement.
Ah non, à l'époque, vous pensez bien qu'on est loin de faire l'identification.
Les groupes sanguins, même, ça n'existe.
Alors, depuis 2 ans, en 1900, en Autriche, on a réussi à déterminer qu'il existait plusieurs groupes sanguins.
D'accord.
Mais voilà, c'est tout. On en est juste là.
Donc,
le torchon qui est ramené avec des traces de salive, finalement, va servir et me placer sous scellé, va être présenté au moment du procès en cour d'assises. Mais concrètement, il n'y a aucun examen qui est réalisé sur ce torchon.
D'accord. Oui. Alors, par contre, l'autopsie a donné un élément quand même concret, hein.
Alors, l'autopsie sera effectuée le 18, hein, le lendemain de la découverte du corps. Mais justement, ça donne un élément concret. Lors de l'ouverture de l'estomac, effectivement, on voit qu'il n'y a rien. Alors qu'on avait constaté que Rebelle avait préparé un repas le soir, il se préparait un repas. Il y avait 2 verres dans la cuisine avec une bouteille. On peut penser qu'il aurait pu peut-être aussi boire ou trinquer avec son visiteur inconnu pour l'instant. Mais l'auteur qui sera identifié et interpellé plus tard, dira, lui, qu'ils avaient mangé tous les deux, qu'ils avaient pris un repas, alors que l'autopsie, elle, détermine que pas du tout.
Que pas du tout.
Ouais, l'autopsie réalisée par le docteur Soquet est très importante, parce qu'effectivement, ultérieurement, Schaeffer dira, nous nous sommes disputés le butin à l'issue d'un repas. Or, le contenu gastrique de la victime est vide, et donc ça prouve bien que Rebel n'a jamais eu le temps de dîner. Et là, c'est intéressant, juste quand on fait le lien du passé avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, le corps de Rebel est transporté à la morgue, hein, le terme institut médico-légal n'existe pas, il est transporté à la morgue qui est du côté de la préfecture, hein, non pas Place Mazas aujourd'hui. Ouais. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait encore des autopsies qui étaient pratiquées de façon foraine, c'est-à-dire au domicile des individus.
Au domicile même, oui.
Et alors, ce qui est drôle, c'est que 15 jours avant, à quelques rues de là, va décéder Émile Zola, qui lui sera autopsié sur place chez lui. Voilà. Alors on peut se dire, mais alors pourquoi Rebel n'est pas autopsié au domicile? Oui. Bah parce qu'à l'époque, il y avait déjà un peu ces différentes classes. Rebel est un domestique, et d'accord, le docteur Allot, qui veut ensuite ouvrir son cabinet assez vite, parce qu'il ne va pas être placé sous scellé.
Donc il faudrait qu'on le débarrasse
du
corps.
Il est hors de question qu'on autopsie son domestique dans son appartement. D'accord. Voilà, ça c'est pour faire le lien.
Alors qu'Émile Zola,
ce qui se passe
effectivement,
aujourd'hui.
D'ailleurs, on se demandera après, mais là, oui, l'autopsie n'avait rien apporté, mais si cette mort était aussi naturelle qu'on a pensé. Alors, on va faire un peu de suspense maintenant. Pendant tout ce temps-là, pendant tout ce qu'on raconte, Alphonse Bertillon, il travaille. Il passe en revue toutes ses fiches. Mais est-ce lui qui va sortir brutalement de ses fichiers le nom de l'assassin? C'est ce que vous allez nous dire dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
Et on passe au crible de la loupe de l'identité judiciaire du 21e siècle, cette histoire de l'affaire Schaeffer. Je disais tout à l'heure le docteur Schaeffer, évidemment c'était un lapsus, c'est le docteur Allot qui était le chirurgien dentiste qui possédait ce cabinet boulevard Saint-Honoré où on avait retrouvé le cadavre de celui qui faisait office de secrétaire particulier, d'homme de main, on peut dire, enfin d'homme à tout faire, quoi. Pour tout dire. Alors, tout ça, donc 16 octobre, vraisemblablement le meurtre, 17 octobre, la découverte qu'on a racontée, 20 octobre, coup de théâtre, monsieur Alphonse Bertillon rend au préfet de police son rapport.
Alors, il écrit ce rapport le 24 octobre. Il se passe 6 jours, voilà, entre son intervention du 17 et puis le 23, avant qu'il écrive sûrement son rapport, hein, donc il y a 6-7 jours où il va procéder donc à l'exploitation de ces traces papillaires qui vont être assez compliquées, dit-il, parce que elles ont été retrouvées sur un morceau de verre brisé de ce grand médaillé. Et donc il a devant lui un problème technique, il a en opposition le pouce et l'index derrière d'un côté et de l'autre de la vitre. Et alors pour les photographier, même aujourd'hui d'ailleurs pour nos photographes, ça pose de gros problèmes. Et il va dire, donc, j'ai dû reconstituer ces empreintes digitales pour les mettre l'une à côté de l'autre et pour pouvoir travailler. Donc ça prend quand même un certain temps. Oui. Et effectivement, il va consulter ses fiches. Et là, on peut dire quand même qu'il a quand même aussi un peu de chance, parce que depuis 1894, il n'appose que des mains droites sur les fiches aussi, quoi.
Ouais.
Hein? Donc, on vous laisse penser que si Schaeffer avait été gaucher, ça aurait pu poser un problème.
Ça aurait pu poser un vrai problème.
Voilà, et cette affaire, peut-être que nous ne serions pas là aujourd'hui pour en discuter.
D'ailleurs, en vous écoutant parler, je ne sais plus quelle est la date à laquelle avait disparu la Joconde, mais c'est dans ces années-là.
En 1911, il identifie le voleur en 1912.
Voilà, et je crois qu'on a sur la vitre qui avait protégé la Joconde,
voilà,
on avait trouvé une empreinte de pouce qu'on n'avait pas pu identifier,
voilà,
parce que c'était un pouce gauche.
Voilà, tout à fait.
Voilà. À quoi ça tient quand même, hein. Parce que donc, du coup, 2 ans après, en 1904, on va prendre les 10 doigts.
Oui. Les 10 doigts sont relevés à partir de 1904.
Voilà. Voilà. Mais il manquera toujours le pouce gauche à l'affaire de la Joconde. Donc vous, vous êtes catégoriques tous les trois, c'est vraiment Bertillon qui identifie ce fameux Schaeffer, on va dire, dans un moment qui il est, parce que ce qu'on a pu lire comme ça à droite et à gauche, hein, mais je pense que vous avez les meilleures sources, évidemment, par rapport à nous, c'est que la sûreté dit Oui, mais ça correspond tout à fait à quelqu'un que nous surveillons depuis plusieurs jours.
Alors, c'est vrai qu'on a coutume de dire que l'enquête policière, en fait, traditionnelle, avait dans sa liste de suspects un nommé Georges. Voilà, on savait que c'était un alias, on avait un dénommé Georges. Et donc, certains affirment qu'en fait, le nom de Georges, qui est le surnom, en fait, de Schaeffer, on l'appelait Georges l'artilleur, a été suggéré à Bertillon pour lui faciliter les recherches. Bon, bah, qu'à cela ne tienne, de toute façon, Bertillon, même s'il y avait quelques milliers de fiches à comparer, serait parvenu de lui-même à obtenir le nom de Schaeffer. Ouais. Mais bon, on peut quand même lui rendre hommage. C'est quand même la première affaire résolue grâce à une trace digitale découverte sur une scène de crime. Ouais. Et donc, pour nous,
c'est vous saluez Bertillon. Vous considérez que c'est lui qui a identifié. Alors, il faut peut-être donner maintenant, avec le recul du temps, on sait tout sur cette affaire. Et puis, déjà, au moment du centenaire de l'affaire, vous étiez penchés sur l'enquête, tous les trois. Il faut dire que Georges, c'est sous ce prénom que Schaeffer avait présenté un soi-disant cousin
Rebel.
Au docteur
Rebel. La victime avait présenté Schaeffer, un soi-disant cousin, au docteur Allo.
En l'appelant Georges, Et le procès, il va y avoir évidemment une révélation.
Au procès, c'est très énorme. Parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que finalement, ces trois hommes, le docteur, la victime et Schaeffer, c'est pas du tout la même génération. Hein. Le docteur Allo, lui, est proche de 50 ans. Rebel, lui, proche de 45. Et le Schaeffer, lui, a à peine 25 ans, et tous les trois, Allo, on lui reproche de pas être honnête au procès, de ne pas reconnaître son homosexualité. On dit qu'il a été également l'amant de son domestique, Rebel. Enfin, tout est un petit peu confus.
Tout vient sur la place publique, évidemment, au moment du procès, mais quand même, en démêlant les fils, on peut raconter l'histoire de façon assez finalement proche de la vérité, en disant qu'effectivement, Rebel et Schaeffer se connaissaient, que Rebel avait certainement effectivement présenté Georges, donc enfin sous le nom de Georges Schaeffer, au docteur Allo. Alors ensuite, Georges dit Schaeffer, donc dira que docteur Allo lui avait même proposé éventuellement de travailler pour lui.
Oui, alors
il l'a rencontré.
Ils ont été dîner ensemble tous les trois, donc la victime, son cousin Georges et le docteur Allo. Et lors de l'enquête, un inspecteur du nom de Colichon demandera effectivement s'il connaît quelqu'un qui serait de l'entourage de Rebel, qui serait alsacien, dont le prénom serait justement, il va le prénom et les noms, il va citer plusieurs noms alsaciens. Et là, le docteur Allo dit non, je ne connais pas,
ça ne me dit rien.
Donc voilà.
L'inspecteur Colichon affirme que le docteur Allo ment. Parce qu'il dit, il ne peut pas avoir oublié quelqu'un qui s'appelle Schaeffer, parce que c'est le nom le plus répandu à ce moment-là en Alsace. Mmh. Et forcément, on lui a soumis ce nom. Donc, en fait, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allo, à un moment, a protégé, en fait, Schaeffer. Voilà, on peut se poser la question. Ouais. Il n'a pas voulu le dénoncer tout de suite. Alors, est-ce qu'il avait peur, justement, que ses mœurs soient étalées, comme ça, sur la place publique?
Voilà. Alors, donc, en fait, le mobile, c'était vraiment un mobile crapuleux, puisque, en tout cas, la thèse de Schaeffer, c'est de dire Rebel m'avait indiqué le coup. Le coup, c'était de faire passer pour un cambriolage, en fait, de prendre les valeurs qui se trouvaient dans cet appartement, mais en faisant penser que c'était donc un cambrioleur qui avait fait le coup. Et puis, au moment où il est question de se partager le butin, les deux hommes s'engueulent, quoi, en gros. Oui, une bagarre, c'est ça?
Oui, ils disent qu'ils ont dîné ensemble et que après avoir commis le pseudo cambriolage et que là ils se disputent pour le butin et que là effectivement
Schaeffer étrangle.
Il dit je ne l'ai pas tué, j'ai juste voulu le bâillonner pour qu'il empêche de parler. Et c'est pour ça qu'il aura de cesse pendant tout le procès de dire c'est un meurtre accidentel. Voilà. Ça lui a quand même permis de sauver sa tête, parce que la théorie du meurtre accidentel, donc homicide involontaire aujourd'hui, le jury l'a retenu et finalement il n'est pas condamné à la peine de mort.
Rebel aussi,
selon le docteur Allo, n'a rien à se reprocher particulièrement. Ça fait 12 ans qu'il est au service du docteur et ce jeudi-là, lorsqu'il a été tué, normalement, le cabinet médical est vide. Rebel regagne aussi le domicile de son patron au Batignolles. Et peut-être aussi que Schaeffer, sachant que le jeudi, soir tout est vide, il pourra venir seul et commettre aussi un vol. Et peut-être est-il tombé aussi sur Rebelle qui était là, qui n'était pas rentré du fait du mauvais temps. Et peut-être qu'après, il y a eu une discussion compliquée entre deux.
Voilà, alors là, on va mettre des points de suspension à tout cela. Hein. C'était effectivement en octobre 1902. L'émission n'est pas terminée. On va faire une nouvelle pause et on va consacrer la dernière partie de cette émission, puisqu'on tient aujourd'hui enfin trois membres de l'identité judiciaire de Paris dans ce studio pour justement voir un peu les progrès qui ont été faits et savoir surtout si ces progrès de l'identité judiciaire aujourd'hui sont vraiment tous des conséquences de ce qui était en germe au moment où Bertillon avait mis au point sa technique, ou est-ce que vraiment d'autres découvertes sont venues est-ce que vraiment maintenant, disons que si Bertillon se retrouvait sur une scène de crime en 2014, il n'y retrouvait peut-être pas ses petits. C'est vous qui allez nous le dire dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
Et nous nous retrouvons donc avec mes trois invités, Marion Delbar, Perrine Rogier-Tubert et Gilles Rex, tous trois de l'identité judiciaire de Paris, avec des titres et des grades dans lesquels on se perd un petit peu maintenant. Capitaine de police, agent ASPTS, agent spécialisé en police technique et scientifique, ça c'est votre définition, Marion Delbar. Capitaine de police, c'est vous, Perrine Rogier-Tubert, et Gilles Rex, qui est brigadier-major à l'identité judiciaire de Paris. En fait, quels que soient vos grades, vous constituez une équipe avec bien d'autres, hein, j'imagine. Il y a combien de personnes qui arrivent comme ça sur une scène de crime quand on appelle l'identité judiciaire ?
Bah, tout au début, une fois que l'état-major saisit l'identité judiciaire, trois personnes constituent la première équipe intervenante et elle sera rapidement épaulée par deux autres personnes et voire plus en fonction de la complexité de l'affaire.
Voilà, et des spécialités des uns et des autres si nécessaire, mais ça on peut pas le prévoir, c'est finalement les conditions, les circonstances du meurtre qui font le casting, si j'ose dire. Alors, moi ce que j'aimerais pour terminer cette émission, c'est qu'on garde cette scène de crime de 1902, un appartement parisien, des vitres brisées, des vitrines brisées, on a vraisemblablement essayé de voler quelque chose, mais quoi ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment disparu ? Un foulard avec de la salive qui a servi à bâillonner la victime, qui est donc morte, et puis on appelle la police. Alors, maintenant, si on regarde ça avec un œil de 2014, je ne sais pas qui a envie de me prendre par la main et de me dire, on va peut-être commencer par Marion Delbar.
Eh bien, donc comme on l'a dit tout à l'heure, on ferait un périmètre de sécurité pour préserver les lieux.
Oui.
Car en fait, la première étape sur une scène de crime, c'est la préservation des traces et indices.
Oui.
Donc,
L'équipe de policiers qui arrive, parce que il y a quelqu'un qui vient, il dit, mais voilà, je viens de rentrer chez moi, c'est horrible, il y a un crime, j'ai trouvé un cadavre dans mon salon. Donc les premiers policiers qui y vont sont pas des spécialistes, j'imagine.
Oui, mais ils sont sensibilisés aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Les premiers intervenants donc sont souvent les commissariats du quartier.
Oui.
Et donc ces policiers, c'est eux qui se chargent de ce périmètre de sécurité et de préserver les lieux en attendant l'arrivée et des enquêteurs et de l'identité judiciaire.
D'accord. Bon. Alors ensuite, les spécialistes débarquent.
Alors ensuite, on arrive. Donc la base de trois personnels, comme vous l'a dit Gilles, avec un photographe, un dessinateur qui va s'occuper du plan.
C'est votre boulot en ce moment, non? Alors, photographier plan, je crois. Hein.
Oui, c'est ça. Donc je suis dans une section qui fait et la photographie et le plan des lieux. Mm-hmm. Donc on est polyvalent aussi bien sur les photos et les plans.
En quoi c'est important?
Alors c'est pour la fixation des lieux, afin de pouvoir constituer des albums qui seront transmis au juge et qui permettront au juge et au juré de se représenter la scène telle qu'elle y était, sachant que eux n'y sont pas allés.
Oui, bien sûr, d'accord. Oui,
et surtout également pour la reconstitution, Périne, parce qu'aujourd'hui toute affaire criminelle va être reconstituée avant le procès, et donc c'est important de retourner sur les lieux, et parfois lors des reconstitutions on est surpris finalement il y a certains éléments qui apparaissent et à l'époque là, Bertillon lui avait fait quelques photos et avait pris des mesures également, et c'est idiot, mais ça nous a servi quand on a fait la reconstitution en 2002, on a eu la chance de pouvoir, grâce à notre ancien chef de service, monsieur Marlet, faire la reconstitution de la scène de crime, et heureusement que finalement on avait des mesures métriques prises par Bertillon, c'est important.
Et ça n'a pas changé changer, ça c'est une permanence.
Non, ça c'est une permanence. La préservation des traces et indices, positionner des cavaliers pour matérialiser visuellement les choses importantes.
Le fameux petit cavalier jaune de couleur.
Voilà, c'est avec des numéros ou des lettres. Après, donc, cette prise de photographie, mesurer tout ce qui est important. Prélever donc les indices biologiques d'abord parce que ce sont les plus fragiles. Passer évidemment des poudres avec des pinceaux de différentes couleurs selon les différents supports pour faire apparaître des empreintes digitales sur les différents supports. Tout ceci sont des techniques plus avec des lampes ou des lampes avec différentes longueurs d'onde qui vont nous montrer des traces de pas, des fibres qu'on ne voit pas à l'œil nu.
Et prélever évidemment ces éléments,
De manière à les faire analyser dans les laboratoires concernés, pour rechercher l'ADN.
Et puis Périne Rogier, il faut faire parler le cadavre. Je dis ça en vous regardant, vous, parce que vous êtes l'auteur d'un livre dont on sera certainement amené à reparler en 2014 dans cette émission. La parole est au cadavre. C'est un livre qui avait été préfacé à l'époque par Olivier Marchal. Oui. Pas tout vieux, le livre, il est tout récent. Aux éditions Demos. Vous parlez beaucoup, évidemment, la parole est au cadavre, des indications qu'on peut tirer tout de suite par l'analyse immédiate d'un cadavre. Que ce soit sa position.
Oui, alors sur la scène de crime, le cadavre est très intéressant de par sa position, de par les signes cadavériques qu'il va présenter, tout ce qui est rigidité, lividité, et finalement va donner des informations précieuses au service enquêteur avant même que l'autopsie soit pratiquée. Mais ce qui est intéressant sur les scènes de crime aujourd'hui, c'est que le cadavre est riche en renseignements, mais également, et par rapport à par exemple à l'affaire Schaeffer, c'est qu'aujourd'hui toutes les traces latentes, donc non visibles à l'œil nu, on peut les détecter. On a des moyens pour retrouver, découvrir des traces latentes qu'on ne voit pas lorsqu'on arrive sur la scène de crime.
C'est ça. Donc, par rapport à 1902, on aurait pu recueillir des éléments biologiques, comme vous dites, de l'ADN, par exemple, de Schaeffer.
Bien sûr.
Qu'on aurait retrouvé uniquement s'il avait déjà eu Maya, à partir avec la justice ou la police.
Bien sûr, parce qu'à l'époque, Schaeffer avait été bertillonné, il avait été signalisé
en mars de la même année.
Alors que là, nous étions en octobre, quand il commet son crime. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui serait signalisé, on va prélever ses 10 doigts, évidemment, ses paumes aussi, le dessin de ses paumes, de ses empreintes palmaires, plus un écouvillon de salive pour avoir son ADN, et évidemment, une fiche descriptive sur le physique, la taille, etc. Donc, tout ça va permettre, effectivement, là, ça aurait permis de comparer les traces de sang sur le torchon, sur la serviette, dans l'évier, voir si c'était de la salive, etc., de manière à pouvoir comparer en biologie des indices intéressants.
Voilà. Et donc, tout cela, Marion Delmar, c'est aussi pour être confronté aux déclarations de celui qui ou de celle qui va être mis en cause.
Oui, tout à fait. Et puis,
je pense à Schaeffer qui dit mais non, on a mangé ensemble, etc. Là, c'est clair que non, quoi.
Oui, on aurait été capable évidemment de le contredire.
Au-delà de l'autopsie, quoi.
Oui.
Autre chose comme différence, ou est-ce que en fait, oui.
Par exemple, à l'époque des faits, ce qui comptait énormément, c'est ce qu'on appelle la preuve testimoniale, c'est-à-dire les aveux, les témoignages. On se basait donc aveux, témoignages sur la réputation de la victime. Aujourd'hui, c'est vrai que la preuve scientifique, elle ne supplante pas l'enquête traditionnelle, il faut quand même qu'elle corrobore ce que l'enquête traditionnelle va donner comme conclusion.
En fait, et ça peut être intéressant de le dire à la fin d'une émission comme celle-ci, c'est que toutes ces techniques-là, elles peuvent permettre également d'innocenter quelqu'un. Quoi.
Mais complètement, c'est à charge et à décharge.
Ouais. Et ça, c'est quand même très important. On l'a vu dans des affaires récentes.
Gens accusés à tort, par exemple, où ils étaient accusés aussi. De manière injuste.
Et juste, il nous reste vraiment quelques secondes quand même, parce que je l'ai appris c'est vous, Périne, qui m'avez dit ça à l'oreille là, tout à l'heure. Bertillon n'a pas été convaincu par le succès de cette enquête.
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
C'est-à-dire que lui, il va être élevé au rang de... il est élevé au rang de savant à l'issue de l'affaire Schaeffer, et pourtant, il continuera, et il sera le seul, encore pendant des années, à continuer à faire de l'anthropométrie judiciaire, alors que tous les autres pays étrangers ont abandonné abandonner cette technique pour ne se consacrer qu'aux empreintes digitales.
Voilà, comme quoi on peut être un grand savant et quand même se mettre le doigt dans l'œil de temps en temps. Je vous remercie beaucoup, merci infiniment d'avoir évoqué ce vieux crime, si j'ose dire, mais pour lui rendre toute son actualité. L'émission est maintenant terminée. Tout de suite après le flash, tout à l'heure, vous retrouverez bien sûr Flavie Flamand, comme d'habitude.
RTL en fête.